Alors, depuis le début et même depuis vendredi après-midi avec la rencontre avec les étudiants, il y a un mot qui revient, un mot qui revient beaucoup, c'est pulsion de mort, pulsion de mort, pulsion de mort. D'où ça vient, sa pulsion de mort? Donc, je vais faire un petit voyage du côté de la pulsion de mort, de sa. De son origine et de en quoi c'est intéressant de voir comment c'est apparu cette notion de pulsion de mort dans la tête de Freud mais grâce à sa correspondance avec d'autres comme toujours La réunion du mercredi, ce n'était pas des bébés, comme il a été dit tout à l'heure. Sabina Spielrein et d'autres qui étaient là, notamment Abraham, le grand Abraham, ont souvent précédé Freud, Tosk aussi. Voilà, faut le savoir, c'était quand même des inventeurs de la psychanalyse. Donc la pulsion de mort. La pulsion de mort et son rapport avec le passage à l'acte, parce que c'est en ça que c'est intéressant. C'est dans la mesure où, justement, il y a à un moment donné une rencontre de la pulsion de mort, qu'il y a tout de suite après passage à l'acte. Hein. En particulier dans ce que Nicolas Dyssez a dit tout à l'heure, le passage de l'enfance à l'adolescence, de l'enfance où il n'y a pas de rapport sexuel. À l'adolescence où ça commence, il y a quelque chose dans ce rapport qui précipite et qui fait qu'il peut y avoir brusquement rencontre de la pulsion de mort. Et je vais en parler à partir de l'un des inventeurs de la pulsion de mort, Bouddha. C'est quand il est devenu père qu'il s'est assis sous un arbre et puis, bref. Voilà, c'est un peu de tout ça dont je vais essayer de parler pour voir qu'est-ce que ça nous apporte, ce petit voyage décalé. Parce que, comme vous savez, le nirvana, c'est l'un des trois termes qui ont permis à Freud de découvrir la pulsion de mort. Et il y a également, comme vous le savez sans doute, le retour à l'inanimé et le sentiment océanique. Alors, on va voyager un peu sur cet océan. Et ce que je vais essayer de montrer, c'est que ce sont des prête-noms, ces trois termes, ce sont des prête-noms du désir incestueux, hein, comme étant, je dirais, l'autre nom de la pulsion de mort. Voilà. Alors, par exemple, une angoisse de mort peut se déclencher suite à un inceste réel ou seulement fantasmé. Et dans la vie ordinaire, par exemple, ça peut arriver lorsqu'une femme dite hystérique est prise dans la séduction d'un personnage paternel, ou encore plus, si ce personnage paternel la viole, ou même seulement s'il la trompe. Donc, elle peut chercher à se suicider alors qu'elle ne veut pas mourir. Hein, souvent, quand on demande à des gens qui ont fait une tentative de suicide, quand ils se réveillent, ils disent, mais j'ai pas voulu mourir. C'est donc d'une mort particulière dont il s'agit. C'est une mort, c'est le destin incestueux de la pulsion de mort au début de la vie. Parce que la mort, elle est divisée en deux, aussi bien au début de la vie qu'à la fin. C'est deux espèces de la mort. Alors, je vais essayer de détailler un peu pour comprendre. Comment s'est arrivée cette invention de la pulsion de mort à partir de notions, les trois termes que je viens de dire, nirvana, etc. D'abord, en voyant que quand l'enfant s'installe d'abord dans la vie, c'est grâce à l'amour de sa mère, si elle lui donne un nom, c'est-à-dire si elle l'appelle par son nom. Qu'est-ce que c'est que ce nom? C'est un nom d'ancêtre ou un nom de saint sacrifié. Bref, c'est le nom d'un père mort. Et s'il n'y avait pas ce nom donné, eh bien, l'enfant rencontrerait la pulsion de mort au début de son désir, au début de la vie. Pourquoi? Parce que sans ce nom, eh bien, son propre désir incestueux pour sa mère le menacerait lui-même. C'est une première espèce de la pulsion de mort. Hein? Donc la noyade dans ce désir incestueux éveillerait le sentiment océanique, celui que Romain Rolland a évoqué dans sa correspondance avec Freud, et ce nirvana a un sens passif, celui d'une fusion avec sa mère incestueuse, dont l'appel du nom d'un père pourrait le sauver. C'était déjà écrit dans Exode, « Tu n'invoqueras pas en vain le nom du Seigneur ». Exode 20,7. Je dis ça parce que je vais faire un certain nombre de références religieuses pour voir que, finalement, Freud a découvert beaucoup de choses qui importent dans la laïcisation de la religion. Vendredi, j'en ai déjà parlé avec les étudiants qui étaient là, à propos de leur désir de soigner les autres. J'ai soutenu que le passage à l'acte se produisait à un moment où se présente un désir impossible à dire. Et le premier commandement de ce qui a été le bouddhisme, le premier commandement du canon Pali, si vous connaissez un peu le bouddhisme, c'est d'en finir avec le désir. C'est ça le premier commandement. Le désir est considéré comme une source de malheur. Alors ça n'apparaît pas forcément dans la traduction en français des textes bouddhistes qui préfèrent remplacer le mot désir par le mot soif. J'arrive pas à le prononcer, tsna, soif. Le mot désir est tabou car la clé de la porte d'entrée du désir, c'est quoi? C'est le parricide qui résulte du désir incestueux. C'est-à-dire, comme il y a un désir incestueux et qu'il est mortel, autant parricider son agent. C'est ce qui se passe dans la pièce de Sophocle que vous connaissez, Œdipe Roi. Et en français, dans les traductions des textes bouddhistes, c'est intéressant de voir que le mot désir est souvent remplacé en français par le mot soif. Vous verrez ça si ça vous intéresse. Cette appellation de soif, ça liquide complètement le grand élan du désir. La soif, ça peut être la soif d'un animal quelconque, du corps trop sec, de l'ivrogne, etc. Le désir, quant à lui, ne craint pas de crever de soif. Aucun gémissement du corps ne l'arrête. Que lui importe la soif, la faim, le froid, les saisons? Donc j'avancerai aujourd'hui que ce qui est impossible à avouer et ce qui fonde notre existence de manière dénégative, c'est le désir incestueux ou encore son équivalent, c'est ce que je vais essayer d'argumenter aujourd'hui, l'équivalent de la pulsion de mort, c'est le désir incestueux. Sur Terre, le désir est coupable, toute religion confondue et sans religion d'ailleurs, et il est réprimé pour les adeptes du nirvana bouddhiste par exemple. Cela va de la nourriture et du vêtement jusqu'à l'érotisme. Donc, dans le bouddhisme tout du moins, au lieu de tuer le père fantasmatiquement en l'envoyant au ciel, Bouddha se nirvanise lui-même. Au fond, il réalise ainsi quand même le désir qui, au bout de ses avatars, cherche sa propre extinction. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, le désir, s'il va jusqu'au bout, eh bien, il cherche à s'éteindre lui-même, à se tuer lui-même. C'est ça le but final du désir. Voilà. Alors, ce désir incestueux, il est honteux et il réclame de payer, sinon de se sacrifier. C'est absolument, on peut dire, c'est universel dans toutes les religions. Les religions inversent en croyance collective ce qu'il y a d'inadmissible dans le désir. C'est la transformation, vous pourrez voir ça dans Freud, en particulier dans l'étude du cas Schreber, c'est la transformation de Lohengrin, de l'incroyable, incroyable du désir incestueux, en croyance collective, en Glauben. Par exemple, le désir parricide transforme le papa terrestre en père éternel, en père éternisé. Et la honte du désir incestueux va entraîner la nécessité du sacrifice. C'est un passage à l'acte, nous sommes là à nos journées, qui est généralisé dans toutes les religions. Par exemple, le djihad est un passage à l'acte destiné à se racheter et à rejoindre Dieu dans son paradis. Par conséquent, le passage à l'acte terrestre aura comme horizon d'obtenir le paradis pour plus tard et de se retrouver dans les bras de papa au paradis à l'heure de la résurrection de la chair dans la religion chrétienne. Voilà. D'où ça vient, ça? Ben, c'est quelque chose que Freud a très bien détaillé, cette idée de sacrifice qui permet une jouissance, au fond, incestueuse. C'est écrit en gros, mais encore faut-il arriver à le lire. C'est la jouissance qui résulte du fantasme « Un enfant est battu », que vous connaissez sûrement, qui équivaut quand même à un viol. Je veux dire, là on est en plein dans nos histoires. Alors, donc, j'essaye de prendre le problème sur lequel on réfléchit cliniquement dans nos journées de la manière la plus universelle. Parce que pourquoi nous tous qui prétendons, qui essayons, qui faisons de notre mieux pour être des cliniciens, pourquoi est-ce qu'on se fatigue comme ça à travailler pour être des bons garçons et liquider quoi ? Ben, nous aussi, comme tout le monde, je dirais notre culpabilité, c'est-à-dire la honte de notre désir refoulé qui pousse à agir, et cela de la manière la plus générale. C'est le motif le plus universel du passage à l'acte que j'essaye de décortiquer avec cette histoire de naissance de la pulsion de mort avec l'un de ces termes, le nirvana. Le passage à l'acte dans la religion bouddhiste, c'est le karma. Karma, c'est l'action, c'est le passage à l'acte, donc, qui permet d'accéder à ce nirvana, celui dont Freud a parlé. Et voilà. C'est une grande violence, c'est-à-dire c'est la violence du désir incestueux lui-même qui installe le mal à la source du désir. Il faut le dire, ce n'est pas seulement des gens qui sont malades, qui sont pathologisés, etc. Pas du tout. C'est vrai pour tout le monde, y compris pour nous qui sommes ici soignants. Ce mal menace et la mort du désir est le premier commandement du bouddhisme. Pour ceux qui ont étudié le canon Pali, c'est ça le premier commandement du bouddhisme. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un désir incestueux, insupportable, est aussitôt refoulé au début de la vie et il cherche ensuite à en finir avec lui-même. Il cherche quoi ? Un zéro de tension qui a des visages extrêmement multiples. Ça peut être prise de drogue, prise de risque, la guerre. Et les autres monothéismes, dont celui de notre culture, considèrent également que le désir s'égale au péché. Et le Père, dans le christianisme, est projeté au ciel et il survit mort et castré, tandis que la résurrection de la chair fera du paradis un lieu de retrouvailles du Père. Voilà. Alors, c'est intéressant de voir le trajet du bouddhisme pour l'invention quand même de ce nirvana dont nous parlons en oubliant sa source. Donc c'est un peu sur ça que j'ai voulu faire mon exposé. Il ne faut pas oublier que Bouddha, Gautama Bouddha, était hindou de naissance, qu'il s'est marié à 16 ans. Et que la princesse Yasodhara lui a donné un fils, Rahula. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui ont eu la curiosité de pratiquer tout ça. Et donc, Gautama s'est retiré, s'est assis sous un arbre pendant 40 jours. Et au bout de 40 jours, il a la révélation de la nouvelle révélation, de la nouvelle religion, le bouddhisme, lui qui était hindou. Voilà. Alors, je le rappelle parce que vous allez voir l'intérêt que ça peut avoir pour nous et pour notre clinique aussi. Il y a quatre nobles vérités bouddhistes. La première, c'est l'anatman, l'absence de soi, l'impersonnalité. Ça veut dire qu'autant se taire, autant la boucler dans un monde dépersonnalisé qui n'a d'existence indépendante, qui n'a pas d'existence indépendante et réelle en dehors de celui qui l'aperçoit. Alors, vous voyez que si l'aventure de Gautama a commencé en doutant de sa paternité, alors le monde devient douteux lui aussi. Et il ne faut pas oublier l'origine hindouiste du bouddhisme. Parce que dans l'hindouisme, Brahman, le principe suprême, paternel en quelque sorte, tient en équilibre la balance des perceptions du monde. Et si le principe paternel est remis en question par Bouddha, alors l'ensemble du monde n'est plus qu'une illusion. Voilà. Donc vous voyez le bouger qu'il y a avec la question de la paternité, du don du nom qui s'impose au moment d'une naissance, qui fait question au moment d'une naissance et qui est un problème pour beaucoup de jeunes pères qui rigolent, mais qui rient pas tant que ça, qui ont peur de lâcher leur nourrisson, de le foutre par la fenêtre, ou que ça excite sexuellement de tenir leur enfant dans les bras. Enfin, autant de faits cliniques. Alors, Bouddha, jeune père, il ne faut pas l'oublier, il aurait pu dire « Ce que tu vois dehors n'est que néant. Tu contemples les simulacres qui s'agitent au dehors, les choses multiples, manigancées par ton imagination. » Donc, on pourrait penser que si le moment de cette révélation de cette religion concorde avec celui d'une paternité problématique, alors la nomination des choses bascule et le monde devient un théâtre d'ombre qui n'est plus porté par le Verbe de Dieu. Voilà. Donc, je reviens sur ce point de bascule qui entraîne le passage de l'hindouisme au bouddhisme. Parce qu'il y a ensuite, c'est très, très intéressant de le voir pour comprendre d'où ça vient la pulsion de mort, il y a une cascade de problèmes de traduction qui se sont succédés entre les vocables de la vie hindoue et le Bouddha, ceux de Bouddha. Alors, par exemple, sur le sens du mot « nirvana », eh bien, il y a deux sens opposés. C'est comme les sens, le double sens des mots primitifs. Eh bien, ces deux sens opposés, c'est ils opposent une mort d'avant la vie. Hein, j'ai fait allusion tout à l'heure de cette question de la mort d'avant la vie, avant le don du nom. Et la mort de la fin de la vie, ça fait deux morts, il faut penser. Il y a un espace d'entre-deux morts dont a parlé Lacan à propos de, comment elle s'appelle, cette fille qui a enterré son frère. Heureusement que vous êtes là, d'accord. Donc il y a une mort d'avant la vie et une mort de la fin de la vie. Hein, qui diffère complètement. Là, il y a un problème de traduction. Parce que, qu'est-ce que je veux dire pour l'hindou, c'est au bout de plusieurs millions d'années de réincarnation. Et le nirvana d'avant la vie, au contraire, pour Bouddha, il se rebrousse avant la naissance. C'est l'angoisse. C'est la conséquence de l'angoisse de l'enfant d'être à ce point séduit par son père qu'il craint qu'un nourrisson naisse de ce mariage incestueux. père de lui-même, il serait donc né d'avant son propre accouchement. C'est un peu difficile à comprendre, mais vous allez voir que c'est très, très fructueux. C'est-à-dire, il mourrait et renaîtrait en quoi ? En ce que la, ce qui s'appelait dans la chrétienté, un enfant de l'imbe, celui qui n'a pas encore reçu son nom, justement. Surgit en quelque sorte, ce serait un enfant qui ne serait pas encore né au sens où un nom ne lui a pas été donné. Alors, je vais essayer d'éclaircir le problème, parce que c'est un problème tout à fait important à comprendre pour voir ce que c'est que la pulsion de mort. Hein. Je peux déjà donner une petite vision binoculaire avec le christianisme, par exemple. Le Christ incarne le même universel du désir incestueux d'une autre manière. Il naît d'une union entre sa mère Marie et son propre père divin qui est venu la visiter dans le dos de Joseph, comme vous savez. Et puis le Christ lui-même est l'époux de Dieu. La communion, c'est comme ça que ça se passe. Et au résultat de ce double inceste, c'est un double inceste quand même, on vit dans cette culture. C'est pour ça que même les psychanalystes ont du mal à comprendre cette histoire de désir incestueux, etc. Beaucoup ont du mal à comprendre. Hein ? Au résultat de ce double inceste, le Christ n'a plus de corps et son tombeau est vide à Jérusalem, comme vous savez. Et il en va de même pour Bouddha. Son corps est un don tombeau vide à lui tout seul, éveillé à l'humanité la plus profonde, celle d'un désir qu'il ne faudrait pas, et c'est ça son nirvana. Alors, donc, dans la comparaison que je vous fais, c'est une espèce de vision binoculaire entre, pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que la pulsion de mort, de l'éclairer un peu. C'est que vous voyez que le sacrifice de Bouddha, il inverse celui du Christ. Et on peut dire que si les hommes n'ont pas sacrifié Bouddha, eh bien, c'est qu'il le fait lui-même, Bouddha. Jésus-Christ se sacrifia pour tous, comme vous savez dans notre culture, quid tollit peccata mundi, contrairement au Bouddha qui recommande à tous de se sacrifier. Voilà. Alors, le même mot signifie le contraire dans la vie hindoue, où il ne faut pas s'endormir, mais courir de millénaire en millénaire, de réincarnation en réincarnation, jusqu'à un nirvana du bout du temps, au bout de millions d'années. Alors que le nirvana de Bouddha, c'est tout de suite, en quelque sorte. Hein, voilà. Donc, on a deux nirvanas qui s'opposent. Une mort d'avant la vie diffère de celle d'après des milliers de résurrections. Et on pourrait dire que cette différence de sens entre deux nirvanas, le nirvana bouddhiste et l'hindouiste, illustre la division du désir de chaque sujet. Nous sommes tous à moitié hindous et à moitié bouddhistes. Vous ne le saviez pas, hein ? Voilà. Nous sommes tous à droitiers et gauchers. Vous ne le savez pas non plus, mais vous le faites. Notre corps, ce n'est pas seulement le sujet qui est divisé. Notre corps est divisé en deux par le rejet du désir incestueux. Il y a une moitié qui l'accepte et l'autre qui la refuse. Et celle qui la refuse est inhibée, paralysée. C'est l'intérêt. Voilà, je le dis un peu vite, mais vous y réfléchirez, et comme ça vous, je sais pas, je veux dire, c'est incarné la question, c'est incarné, non seulement dans la clinique, avec toutes les sortes de passages à l'acte, de prise de drogue, de prise de risque que j'ai évoquées, mais également corporellement, notre corps est divisé par l'interdit de l'inceste. Donc le passage à l'acte, le karma, a deux sens distincts. L'hindou agit pendant des millions d'années, alors que Bouddha se garde bien d'agir. Le premier s'élance et le second s'enfonce. toujours plus souriant au fur et à mesure qu'il abandonne les pelures d'une vie de tréteau, grand guignolesque. L'expansion vers l'infini, d'un côté. Infini et fini, c'est marrant, hein, ça vous évoque quelque chose aussi, j'imagine. Infini d'un côté et de l'autre, rétraction en un point virtuel du nirvana. Le bouddhiste ne projette rien là-haut, au fond des cieux, mais il s'enfonce au fond de lui-même. Il se vide de son désir. Et la mystique chrétienne connaît la même aspiration. Par exemple, si vous avez lu Saint Jean de la Croix, Saint Jean de la Croix qui a écrit qu'au fur et à mesure qu'il se vide, le vide de Dieu l'envahit. Voilà, ça c'est une forme admissible du rapport sexuel pour le mystique. Voilà, le nirvana, c'est frappant, mais dans les deux cas, c'est le fruit d'un certain nombre de répétitions, et donc c'est pas du tout exagéré de comparer au point de vue freudien. Et qu'est-ce que c'est que la répétition d'un point de vue freudien ? Vous le savez, la répétition cherche à contredire ce qui fut subi passivement. Et il ne s'agit donc pas d'une répétition du même. La souffrance n'est pas répétée, mais elle promet son contraire. C'est la même chose pour la répétition de Bouddha. Bouddha n'invoque pas Dieu, il réalise jusqu'au bout sur lui-même le vœu parricide, si on l'en appelle ainsi, la totale irreprésentabilité de Dieu. C'est détruire le désir, à commencer par celui du parricide. Donc c'est un monothéisme en négatif. Bouddha promet de plonger au fond de lui en renonçant à l'action, en renonçant à son karma, en renonçant au passage à l'acte. Il dit qu'il faut s'asseoir et mettre son karma à l'envers. Donc c'est un karma, c'est un passage à l'acte interne, contemplatif. Que faire maintenant ? Eh bien, rien. Ne faites rien. Et pourtant, ne rien faire est malgré tout un karma, une forme de passage à l'acte. L'anéantissement technique du désir qui ouvre la voie à l'illumination, au nirvana. Voilà, c'est une énorme différence avec le karma hindou, parce que dans le karma hindou, eh bien, il y a un cycle de millions d'années qui est lui aussi appelé karma, et il faut attendre d'être au bout de son rouleau avant d'accomplir le divin mariage avec Brahman, le père, papa, oh papa. C'est comme dans Schreber, quoi. C'est pareil. Hein. Voilà. Avec donc, vous voyez la différence. Bouddha, Gautama, il a le regard tourné vers l'intérieur, et donc on peut dire qu'il est intéressé par un retour à une mort d'avant la vie, le rêve d'avant la vie. C'est une forme de réalisation de l'inceste avec l'un de ses parents, semble-t-il. Un désir de non-désir qui s'actualise dans des profondeurs intérieures et non dans l'action extérieure. Ce karma interne, c'est le passage à l'acte de Bouddha tourné vers dedans, vers le dedans. Donc l'ordinaire des actes dans la vie courante, il cherche à réaliser des fantasmes qui assurent l'existence du sujet dans le monde, et ils ont une dimension parricide, c'est assurer l'existence du je terrestre en quelque sorte. Hein, et voilà. Donc c'est le contraire du karma du bouddhisme qui est tourné vers l'intérieur Alors il accomplit le parricide sur lui-même, lui qui n'a pas supporté de devenir père. Il faut le voir dans l'historique du bouddhisme. Voilà, tout ça, c'est des points de réflexion. Ce karma qui est toujours orienté par le vœu parricide, c'est un point de concordance avec la chute du père en train de se réaliser dans notre culture pour le sujet occidental. Donc ça suffit pour assurer le succès de Bouddha sous nos latitudes à l'heure du déclin du patriarcat. Bon, je ne vais peut-être pas aller beaucoup plus loin, mais j'espère que j'ai réussi à faire comprendre quelque chose du nirvana et de la pulsion de mort et de ce que ça entraîne comme passage à l'acte, en quelque sorte. Donc, j'espère que j'ai réussi à faire à transmettre quelque chose. Grâce à Dieu, Missa est Deo gracias. Inch'Allah. Amen.